Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Devant la surdité et l'aveuglement de notre cher gouvernement et des parlementaires, qui sont totalement imperméables aux récriminations de ceux qui pourtant sont censés être représentés par eux, on pourrait être tenté soit de jeter l'éponge en se disant que la guerre est perdue, soit au contraire d'en venir à des moyens moins pacifiques que ceux que nous déployons jusqu'à maintenant. Je crois qu'il y a là, mes frères, deux tentations diamétralement opposées et auxquelles je voudrais tenter de répondre. La première tentation concerne ceux d'entre nous qui, de guerre lasse, devant l'inertie des pouvoirs publics, devant cette surdité incroyable, s'apprêterait à cesser le combat. Je voudrais essayer de leur redonner courage en mettant en évidence quelques petits détails qui attestent bien que Dieu bénit notre cause. Nous nous en doutons puisque nous défendons le droit naturel, mais il y a, je crois, vraiment des petites perles qu'il faut savoir déceler alors que le monde s'acharne contre nous. Dieu bénit notre cause et montre qu'il marche à nos côtés. Sous de tels auspices, il n'y a donc pas lieu ni de désespérer, ni de déserter. Et si le démon s'ingénie à grand renfort de lynchage médiatique, d'effet de manche de ceux qui l'inspirent, à nous faire croire que vraiment tout est perdu, que notre cause est disqualifiée, sur un mode beaucoup plus discret, comme il le fait très souvent, Dieu parlant dans la brise légère, non pas dans le tonnerre, eh bien le Seigneur nous montre sa présence. Et un peu lorsque il dort dans la barque, nous n'avons pas à nous affoler et nous devons tenir le rang. Il y a un premier signe qui vous semblera peut-être anecdotique ou dérisoire que je perçois dans le fait qu'à la date de chacune des grandes manifestations organisées contre ce pseudo-mariage coïncide une fête parmi les plus importantes de notre calendrier et surtout parmi les plus emblématiques. Et en rapport avec le thème, le phénomène est d'autant plus frappant que ces correspondances n'ont pas été voulues par ceux qui organisent la manifestation contre ce mariage. Le 13 janvier, première manifestation millionnaire, nous célébrions la Sainte Famille, du moins dans notre calendrier traditionnel. Est-ce qu'on pouvait rêver d'un clin d'œil plus significatif ? Pour ceux qui seraient dubitatifs, deuxième date, le 24 mars, deuxième manifestation millionnaire, étaient célébrés les rameaux. C'est l'entrée de Jésus à Jérusalem, c'est-à-dire d'ores et déjà la revendication par Jésus de son droit à régner sur la société. C'est le Christ roi, mais le Christ roi encore voilé. Il lui faudra passer par les tribulations de la semaine sainte avant que la résurrection le montre éclatant de gloire à la face de ses fidèles. Vous voyez qu'il y a là un petit rapport qu'on peut établir avec notre situation. Tout est encore voilé du règne social de Jésus-Christ que nous promouvons au cours de nos manifestations. La troisième chose, la troisième manifestation qui devrait avoir lieu en principe le 26 mai, troisième manifestation qui sera évidemment millionnaire, il s'agit de la solennité de la Très Sainte Trinité, tout simplement. Vous voyez, pour ce gouvernement qui a l'oreille un peu dure, eh bien, il faut que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient présents au sein des rangs des manifestants. Je ne suis pas providentialiste et j'accorde, je dois bien le confesser, assez peu d'importance à ce genre de correspondance de date. Mais là, il me semble que nous avons des preuves, ou plutôt peut-être des signes, qu'il ne faut pas négliger. Le Seigneur parle par ce genre de signes, alors je pense que nous devons reprendre courage en voyant ces coïncidences, qui ne sont peut-être pas que des coïncidences. Le deuxième élément qui doit nous permettre de garder courage, c'est l'atmosphère paisible pour l'instant. L'atmosphère bon enfant qui règne dans ces grands rassemblements. Vous voyez, des multiples initiatives qui ont fleuri ici ou là montrent clairement une paix. Et une telle paix, mes frères, alors que les manifestants ont tout lieu d'être excédés, d'ailleurs ils le sont en leur fort interne, alors qu'on leur dénie les droits les plus élémentaires, la justice la plus stricte, cette paix n'est pas naturelle, mes frères. Je suis persuadé qu'elle est au-delà des forces humaines et qu'elle est inexplicable à l'aune de notre petite raison. Lorsque des millions de personnes, convaincues de la gravité des enjeux qu'ils défendent, battent le pavé et qu'on leur dénie tous les droits, la logique humaine voudrait que l'ambiance devint violente et violente rapidement. Surtout quand on voit le nombre des manifestants et quand on voit la violence des forces de l'ordre. Bref, je passe, vous connaissez comme moi ces photos de gazage et autres appréhensions et autres autres gardes à vue. L'un de mes colocataires sort de 48 heures de garde à vue, je vous assure que c'était pas aussi rose qu'on veut bien le montrer sur certains médias catholiques. Or, le calme règne. Et ce calme-là, encore une fois, il est, à mon sens, l'empreinte du doigt de Dieu. C'est une diffusion de la charité de Dieu. Et comment s'en étonner lorsqu'on sait que dans les rangs des manifestations où nous nous trouvons, eh bien, les gens vont à la messe. Et essayent, tant bien que mal, ils ont essayé de faire leur Pâques. Ils essayent d'être en état de grâce. Comment donc s'étonner que la charité se diffuse dans les rangs de ces manifestations et que l'on puisse garder un calme à peu près unanime? Ne voit-on pas dans tous ces événements une application étonnante des paroles de Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui? Vous pleurerez, vous vous lamenterez. Ben effectivement, devant les projets iniques du gouvernement, nous pleurons et nous nous lamentons. Et nous avons raison de le faire. Comment ne pas rapprocher cette tristesse de tous les manifestants que nous sommes devant cette destruction programmée de la famille, devant l'entêtement, le cynisme de nos gouvernants, et comment ne pas rapprocher ces pleurs de ceux de Rama qui pleurent sur ses enfants, des lamentations de Jésus sur Jérusalem, des pleurs de Marie-Madeleine au tombeau que nous célébrions il y a encore assez peu de temps parce qu'on avait tué le juste. Et le monde se réjouira, continue Jésus, comme pour enfoncer encore ses apôtres. Le monde se réjouira, mais oui, cette mauvaise joie, cette provocation perpétuelle, ce triomphe annoncé dans tous les médias et avec renfort de strass et paillettes pour nous montrer que nous ne sommes rien. Mais comment ne pas reconnaître dans ces visages de joie factice le rictus du démon dont ils sont les jouets, bien sûr. Je poursuis parce que Jésus continue. Mais votre tristesse se changera en joie. Voyez les visages et la conduite des manifestants. La plupart d'entre eux resplendissent d'une joie peu commune et qui ne devrait pas exister, encore une fois, dans cette situation. Le déboulonnage à marche forcée de la famille et donc de la société aurait dû faire s'écrouler de douleur les partisans. Or, c'est la joie qui éclate. Voyez que... C'est pas de notre fond blessé, de notre pauvre petite nature recroquevillée, que peut surgir cette joie alors qu'on nous gifle. Cette joie, elle vient de Dieu, mes frères. C'est pour ça que je pense qu'il faut garder courage et qu'il faut maintenir notre lutte, qu'il faut continuer, coûte que coûte, vaille que vaille. À l'inverse de ceux qui voudraient cesser de se battre, certains d'entre nous aimeraient qu'enfin les partisans de notre cause en viennent à une batterie de moyens plus musclée. Petit euphémisme dont vous voyez très bien ce qu'il signifie, se disant que la coupe est pleine, que le régime décidément montre de plus en plus depuis 200 ans, il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir qu'il a des traits assez antipathiques, mais là vraiment il se montre dans toute sa nudité, dans toute sa crudité. Et on se dit que dans notre bonne vieille Gaule, comme par les siècles passés, rien n'avance sans que l'on inflige par-ci par-là quelques coups, des bons petits coups de nerf à bœuf, qui résoudraient sans doute la crise. Alors que répondre à cela, mes frères? Vous imaginez que j'en suis pas du tout convaincu. Que répondre à cela? Le principe, il nous est donné, étonnant, il nous est donné par l'épître d'aujourd'hui. Vous voyez, je vous dis qu'il y a des signes. L'épître d'aujourd'hui, l'épître de Saint-Pierre, que nous dit-on, c'est le principe qui doit prévaloir pour les catholiques. Mes frères, soyez soumis pour l'amour du Seigneur, pas pour l'amour de François et consorts. Je ne parle pas du pape, vous avez compris de qui je parle. Pour l'amour du Seigneur à tout pouvoir humain, au roi, François le Petit, et au gouverneur. C'est ce qu'on nous dit ensuite. Ou alors je suis aveugle. Soyez soumis au roi et au gouverneur. Alors on me fera l'objection, très juste, que la doctrine catholique a toujours prévu le cas d'une possible rébellion, et si nécessaire d'une rébellion armée, pour le cas où le roi et les gouverneurs seraient iniques, c'est-à-dire finalement ne seraient pas des rois dignes de ce nom. Le principe, soumettez-vous au prince, mais le cas d'exception, c'est lorsque le prince n'est plus digne de ce que doit être un prince. Alors, on est en droit de se soulever. C'est vrai. Je vous le conseille, le compendium de la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire le dernier document de doctrine sociale de l'Église, en date, parle de la possibilité d'un droit de résistance armée. C'est étonnant d'entendre cela dans la bouche du magistère actuel. Droit de résistance armée. Mais attention, un droit de résistance armée qui ne s'exerce pas au petit bonheur. Il y a 5 conditions qui sont fixées. Alors, je ne voudrais pas allonger démesurément ce serment, mais je me permets quand même d'y faire allusion, parce que les esprits s'échauffent sans garder en tête ces principes fondamentaux qui fondent notre doctrine. Il faut la violation certaine, grave et prolongée des droits fondamentaux. C'est fait depuis bien longtemps. Ça fait à peu près 200 ans. Il faut ensuite qu'on ait épuisé tous les autres recours que la lutte armée. Silence, à vous de juger, sans provoquer de désordre pire. Mais non, bien sûr, puisque nous serions promoteurs de l'ordre social de notre Seigneur Jésus-Christ, donc tout irait bien, sans doute. Mais attention, concrètement, qu'est-ce que ça donnerait? Avons-nous les têtes de file qui conviennent? Avons-nous la personne providentielle qui permettrait au régime, à un nouveau régime, de s'instaurer? Il faut un espoir fondé de réussite, et il faut qu'il soit impossible de prévoir solution meilleure. Bref, à mes yeux, comme aux yeux du magistère actuel, sinon le pape nous aurait appelé à nous soulever, il semble que ces conditions ne soient pas réunies et qu'il ne soit pas encore opportun de se soulever. Je le dis avec d'autant plus simplicité que je pense que peut-être un jour cet état de fait sera là, alors nous pourrons nous rebeller. Si nous nous rebellons maintenant, c'est simple, l'opération avortera et nous repousserons d'autant les chances de succès d'un régime meilleur que ce régime qui est encore en place. Vous me suivez? Pour l'heure donc, je crois qu'il faut nous satisfaire d'un autre combat. Je ne crois pas qu'il soit moins efficace, qu'il soit moins noble. Je veux parler d'une résistance passive. Tout ce qui se fait depuis quelques semaines relève de la résistance passive. Même si c'est avec renfort de boîtes de conserve et autres klaxons, il s'agit d'une résistance passive. L'accueil coloré, bariolé des ministres, qui, soyez-en bien certains, les incommode, quoi qu'ils en disent, les veilleurs de nuit, les manifestations en tout genre, les résistances, les opérations bouchons, tout ce que vous voulez, et tout ce qui rime avec pour tous. Rappelez-vous que les veilleurs ont obtenu la bénédiction de 3 des plus courageux évêques français, Mgr Ray, Mgr Hayet et Mgr Santaine. Ils se sont rendus sur place. Mgr Ray a fait les frais d'une petite opération policière, et il a bien failli être embarqué avec les jeunes gens qu'il venait défendre. Vous voyez donc que nous avons de courageux évêques parfois et qui savent faire de la résistance passive. Voilà. Et quant aux manifestations, il est évident qu'elles sont un coup porté à chaque fois à ce gouvernement unique. Là encore, quoi qu'ils en disent et quel que soit le traitement médiatique de chacune de ces manifestations. Et puis, les troupes catholiques se sont fédérées. Qui eût cru, notamment dans les rangs du gouvernement ou de l'Assemblée, qu'une telle résistance catholique fût possible aujourd'hui? On ne nous parle que de disparition du catholicisme, d'éradication enfin de ces curés et bonnes sœurs qui ont embrigadé notre bonne France depuis longtemps. Qu'observe-t-on aujourd'hui? Nous observons que les laïcs eux-mêmes prennent en charge la résistance. Qui eût cru, même dans nos rangs, que cela était possible aujourd'hui? Nous avons un regard pessimiste sur notre jeunesse catholique notamment. Voyez cette résistance qui fédère depuis les charismatiques jusqu'à Saint-Nicolas du Chardonnay. C'est vous dire que nous avons là de quoi nous réjouir. Il s'agit d'une résistance. L'État a engendré exactement l'inverse de ce qu'il aurait voulu. Il a cru pouvoir nous disperser, il nous a au contraire fédérés. Grâce soit rendue à notre bon gouvernement, et surtout au Seigneur Jésus. Voilà notre arme, donc notre témoignage pacifique. Comme toujours, la vérité triomphera si nous avons la foi. Si vous avez la foi grosse comme une graine de moutarde ou comme un grain de CNV, dites à cette montagne de se jeter dans la mer, elle le fera. Mes frères, tout réside là. Je sais bien que nous sommes en colère, je sais bien que parfois nous trouvons le temps long, notamment pendant cette homélie, peu importe. Nous devons garder la foi et nous devons porter tous nos efforts, premièrement, à être en état de grâce. Si nous sommes en état de grâce, rien ne nous résistera. Pensez à David et Goliath. Ayez une bonne conduite, nous dit Saint-Pierre dans la même épître, rassurez-vous, l'homélie touche à son terme. Ayez une bonne conduite au milieu des païens, afin que sur le point même où ils vous traitent calomnieusement de malfaiteurs, mais ces paroles sont pour nous, on croirait que Saint-Pierre a écrit cela hier, afin que sur le point même où ils vous traitent calomnieusement de malfaiteurs, nous sommes des fascistes, nous sommes anti, tout ce que vous voulez, ils puissent, en y regardant bien, glorifier Dieu pour vos bonnes œuvres. C'est la volonté de Dieu, poursuit Saint-Pierre, que par votre bonne conduite, vous fermiez la bouche aux insensés qui vous méconnaissent. ses clients d'actualité. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Bien sûr, le bec met du temps à se fermer, mais nous sommes en train de fermer le bec de ces gens-là. Notre colère est légitime, mes frères, mais il faut canaliser cette colère. Et je vous propose un moyen très simple, vraiment j'en finis par là, la prière des psaumes. La prière des psaumes est faite pour encadrer toutes les dimensions de notre existence. Vous avez dans les 150 psaumes une prière pour chaque temps de votre vie. Certains psaumes sont des psaumes d'imprécation, des psaumes de plainte auprès du Seigneur parce que l'ennemi semble triompher. Voyez que ces psaumes « Arme mon bras », qui parle de colère de Dieu, qui parle d'écraser la tête des injustes, enfin toutes sortes de choses qui permettent de canaliser notre violence. Et l'Église est profondément incarnée, l'Ancien Testament l'était déjà, ces psaumes sont faits pour nous mes frères. Lorsque nous sommes en colère, plutôt que de nous énerver contre le poste, prenons les psaumes, récitons-les, et alors notre colère deviendra sainte colère. Et elle ne s'exprimera que selon la volonté, selon le cœur de Dieu. Parce que c'est cela, en définitive, qui compte. Mes frères, Dieu vous bénisse, j'espère que vous garderez courage et que nous ne sombrerons pas dans l'excès à l'avenir. En tout cas, comme le dit le désormais adage, on ne lâche rien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci.